Alors, j'ai pas voulu séparer les différents éléments de ces versets parce que ils sont encadrés. Il y a un lien entre les premiers versets, la question des enfants, et puis les derniers versets avec l'homme qui retrouve la vue. C'est deux récits qui sont similaires en fait, parce que les nourrissons et l'aveugle se pressent, ou du moins sont pressés par d'autres, vers Jésus, mais les disciples ou ceux qui marchent en tête du cortège font obstacle. Et donc ce qui permet aussi de faire un parallèle avec la parabole du bon samaritain. Parce que il y a d'abord le prêtre et le lévite qui passent sans se soucier de l'homme blessé, et ensuite arrive le bon samaritain, qu'on avait, rappelez-vous, identifié à Jésus. Et donc là, on est dans le même esprit, c'est-à-dire que l'attitude du prêtre et du lévite, elle se retrouve dans l'un et l'autre récit, dans l'attitude d'abord des disciples et ensuite de ceux qui sont en tête du cortège. Et donc ça permet de renforcer le discours de Jésus qui se trouve identifié à ce bon samaritain qui relève, qui conduit à l'auberge, ou du moins qui conduit vers le royaume des cieux. Alors si on commence par le commencement, c'est mieux. Les versets 16-17, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et donc en fait, c'est dans cette affirmation où va résider la véritable intrigue du récit. C'est pas de savoir si Jésus va finir par bénir les enfants ou pas. L'intrigue, elle est là. Comment est-ce qu'on va pouvoir associer l'idée des enfants à l'entrée dans le royaume des cieux. Et c'est Jésus en fait qui fait le lien entre les deux. Jésus va révéler qu'il existe là une relation qui est tellement étroite entre lui et le royaume de Dieu que les enfants, qui sont donc un modèle d'entrée dans le royaume, ils doivent venir à lui. C'est par lui qu'ils vont avoir accès à ce royaume. Et il fait ça comme si c'était pour donner l'exemple aux personnes qui sont présentes. Le but de chacun, c'est de parvenir au royaume des cieux, mais comme pour les enfants, il faut passer par Jésus. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Donc, vous aussi, vous devez, comme les enfants, vous laisser pousser, vous laisser porter vers moi pour accéder à ce royaume. Et c'est bien ça, hein, c'est-à-dire que Jésus n'envisage pas du tout dans le récit. Les nourrissons selon une classe sociale ou une forme de pureté, comme on peut l'entendre des fois. Enfin, c'est pas du tout ça la question. Là, ce que Jésus met en avant, c'est ce qu'on retrouve au verset 15. Des gens présentaient à Jésus les nourrissons afin qu'il pose la main sur eux. Donc, ce que Jésus met en avant, c'est que ces nourrissons, ils sont en train de s'abandonner à la volonté des gens qui veulent les présenter. Pourquoi? Parce que le disciple est lui aussi appelé à s'abandonner au Christ, parce que c'est le Christ qui va pouvoir le porter ensuite au royaume des cieux. Donc, ça veut dire que le disciple est invité à se retrouver dans la position du nourrisson. Il faut d'abord qu'il vienne au Christ pour que le Christ ensuite le porte comme un nourrisson vers le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un lien très profond qui est révélé ici entre le royaume et Jésus. C'est-à-dire que pour les nourrissons, c'est Jésus, mais à partir du moment où ça devient non plus un nourrisson, mais un disciple, bah, c'est plus Jésus, mais c'est le royaume des cieux. Et Jésus va illustrer ça justement avec la fin du chapitre, c'est-à-dire avec l'aveugle de Jéricho. Ce qui permet aussi d'ailleurs de renforcer hein, le parallèle avec le bon samaritain, c'est la ville de Jéricho. L'aveugle, il est amené jusqu'à Jésus. Verset 40. Jésus s'arrêta, il ordonna qu'on lui amène. Donc les nourrissons sont présentés à Jésus et l'aveugle est amené à Jésus. Et la guérison qu'il va recevoir, c'est le signe justement éclatant de l'avènement du règne de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Jésus est en train de chasser l'impureté du monde. Comme il avait dit, pendant que vous exorcisiez, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, et donc le règne de Dieu avance. Ici, en permettant à un homme de retrouver la vue, il fait avancer le règne de Dieu. Et c'est d'autant plus marquant que, juste avant, on a eu la guérison d'un lépreux samaritain qui a rendu gloire à Dieu. Et ici, que fait l'aveugle? Dès qu'il retrouve la vue, il rend gloire à Dieu et il témoigne à tous de la foi qui l'habite. Donc il y a une proclamation du règne de Dieu. Et puis, entre les deux récits, on va avoir des versets 18 à 34, deux situations qui vont faire du dépouillement l'expression même de l'abandon. Donc, en entrée et en sortie du passage qu'on est en train de voir, il y a la question de l'abandon, l'abandon des nourrissons entre les mains des gens qui les présentent à Jésus, qui amène à l'abandon du disciple entre les mains du Christ qui va présenter au royaume des cieux, celui qui est entre ses mains. Et à la fin, on a l'abandon de l'aveugle qui se laisse conduire jusqu'à Jésus. Et donc, entre ces deux récits qui parlent de l'abandon, on va avoir maintenant deux situations qui vont parler du dépouillement comme l'expression de l'abandon. D'abord, c'est le notable. Un notable qui vient à Jésus, non pas pour le mettre à l'épreuve comme le légiste. Vous vous rappelez, au chapitre 10, il y a un légiste qui vient voir Jésus et qui le met à l'épreuve en lui demandant quel est le plus grand des commandements. Ici, le but n'est pas de mettre à l'épreuve. Le but, c'est d'avancer sur le chemin de la vie éternelle. C'est clairement énoncé dans le texte. Et Jésus va d'abord renvoyer cet homme, ce notable, à l'observance de la loi. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. C'est le verset 20. Et ensuite, mais c'est vraiment dans un second temps, il va l'inviter à s'abandonner à la providence par le dépouillement des richesses. Une seule chose te fait encore défaut, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Verset 22. Alors ça devait être difficile à comprendre pour le notable, parce que la richesse, c'est un signe de bénédiction. Si on a des biens, c'est parce qu'on est béni de Dieu, Dieu le permet. Et les riches sont invités à transmettre une partie de cette richesse, puisqu'ils sont bénis aux autres, à travers l'aumône. Mais en aucun cas, ils n'ont le devoir de vendre l'ensemble de leurs biens et de donner le profit de cette vente à ceux qui en ont besoin, aux indigents. Donc la demande de Jésus peut apparaître comme étant totalement disproportionnée. Et c'est Pierre, par la question qu'il va poser à Jésus, qui va nous révéler en fait quel est le fond de la demande de Jésus. Le but, ce n'est pas de tout vendre pour donner aux pauvres, ce n'est pas de faire ça pour le faire. Le but, c'est de suivre le Christ sans qu'il ne reste aucune attache, sans qu'il n'y ait aucune attache qui puisse nous retenir à l'un ou l'autre moment sur le chemin qui va être à la suite du Christ. Donc marcher à la suite du Christ, ça signifie se dépouiller, s'abandonner. Et la marque de l'abandon, c'est justement le dépouillement. Et l'épisode de Marthe et Marie nous a déjà enseigné que le plus important lorsque l'on est en présence du Christ, c'est pas de faire, c'est d'être avec. Le règne de Dieu est là, donc on est présent. On avait dit, hein, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous, donc on doit être avec Dieu. Alors le récit ne dit pas si le notable décide de suivre Jésus ou s'il s'en retourne par son chemin. Cependant, il est question d'une tristesse, hein, la tristesse de perdre tous les biens matériels, et il n'est pas mentionné une joie. Donc on voit quand même que la tristesse de tout perdre l'emporte sur la joie de suivre le Christ. Et donc c'est probablement cette contradiction intérieure chez le notable que Jésus a voulu relever et lui révéler, d'ailleurs, en lui disant « Tu es plein d'élan, mais cet élan, aujourd'hui, n'a pas de racine suffisamment profonde. Donc, tu ne peux pas tenir. » On renvoie toujours à voilà, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Et c'est le fondement de la démarche du disciple, Et pour pouvoir accepter d'entrer dans cette démarche, il faut aussi accepter de se dépouiller. Il faut accepter d'être dans un abandon qui est un abandon total. Donc il y a forcément une souffrance dans le dépouillement, une souffrance dans le détachement des biens. Et Jésus, à ce moment-là du récit, annonce la troisième, pour la troisième fois la passion qu'il va vivre, et donc il annonce qu'il va vivre lui-même de la pire des manières le dépouillement. Il va le vivre lors de sa passion. Et pour l'instant, il n'y a que nous. Il n'y a que le lecteur, en fait, qui est capable de le comprendre. C'est ça qui est assez génial en soi. Ça reste complètement voilé pour ceux qui sont avec Jésus, mais pour nous, c'est quelque chose de désormais compréhensible. Et on voit toute la pertinence de cette troisième annonce de la passion à ce moment du récit. Parce que sur la croix, Jésus va être dépouillé de tout. Et pourtant, c'est ce dépouillement qui lui permet de triompher de la mort. Et en triomphant de la mort, eh bien, il va pouvoir emmener avec lui, entraîner dans sa victoire, tous ceux qui portaient leur croix, tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui avaient déjà renoncé, non seulement à eux-mêmes, mais qui étaient entrés dans une forme d'abandon par le dépouillement.